C'est lié avec le fait que justement, quand on dit le droit à la différence ne doit pas aboutir à la différence de droit, on combat en général des accommodements qui seraient beaucoup moins forts que cette différence pour un certain nombre de populations qui, ces dernières décennies, seraient venues d'autres, soit des anciennes colonies ou anciens protectorats français, soit d'autres pays. Bon. Et il y a une dissonance quand même très forte entre le fait que on laisse, et même dans la proposition d'Hollande, on constitutionnaliserait cette différence de droit qui existerait en France même dans trois départements, et avec le refus d'accommodement pour des immigrés, des descendants d'immigrés, jusqu'à quand d'ailleurs ces descendants d'immigrés, on les traitera à part. On pourrait affronter la diversité de la société française en disant que la laïcité doit être accommodante pour l'ensemble de cette diversité. Alors évidemment, l'historien et le sociologue essayent de comprendre ce qui se passe, et on peut dire que cette différence de traitement entre les Alsaciens mosellans et des gens qui sont issus de la diversité, mais j'aime pas beaucoup ce terme, parce que s'il y a une diversité en France, tout le monde fait partie de cette diversité. Enfin, c'est le langage commun. Cette différence de traitement relève beaucoup plus d'une sociologie de la peur, d'une sociologie de la crainte, que d'une sociologie de la laïcité. Et témoigne de l'ampleur des craintes qui existent dans la société française actuelle, qui amène un court-circuit, me semble-t-il, entre deux historicités. L'historicité des conflits politico-religieux séculaires, si vous voulez, qui ont existé en gros du Moyen-Âge au début du XXe siècle, mais justement que la loi de 1905 avait voulu dépasser, avait voulu pacifier, bon, et qui sont réactivés par un certain nombre de craintes. Il y a tout un imaginaire historique qui est ainsi réactivé. Bon. Et l'historicité de l'empire colonial comme facteur de puissance et de la décolonisation comme réduction de la France à une puissance moyenne dans le processus de globalisation, décolonisation qui n'est pas encore véritablement assumée et regardée en face par la France. Et le court-circuit de ces deux historicités amène effectivement le développement de craintes et de peurs, et amène paradoxalement aussi, en tout cas ces dernières années, un refus de l'historicité. Parce que tous les discours qu'on a entendus sur les racines, pour moi, c'est des discours anti-historiques. Un pays a une histoire, a des couches d'historicité, et parler de ses racines, c'est faire comme si il y avait un temps originel, aujourd'hui, et rien qui ne s'est passé entre ce temps dit originel. Mais si on dit Clovis comme temps originel, pourquoi pas autrefois on disait les Gaulois, Vercingétorix, etc. C'est le choix de l'époque originelle est évidemment très idéologique. Bon, et puis entre l'époque dite originelle ou marquée comme originelle et aujourd'hui, eh bien il y a eu toute une histoire. Et quand on parle de cette justement de ses racines, paradoxalement là au contraire, On fait silence sur tous ces conflits politico-religieux qui ont amené à construire la laïcité et qui ont amené à cette tentative de dépassement par la loi de 1905. Et donc, ces conflits politico-religieux, d'un côté, on les majore quand il s'agit des immigrés en disant « Mais après tout, on peut être dur avec l'islam, on a été dur envers le catholicisme. » En plus, il faudrait voir si on était réellement dur avec le catholicisme, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, peu importe, on dit ça. Et puis, à côté de ça, on parle des racines chrétiennes de la France comme si ces racines chrétiennes n'avaient pas posé un problème politico-religieux pendant des siècles. Deuxième aspect, la République est démocratique. La France a été une monarchie absolue, et si je rappelle ça, c'est parce que j'estime que l'héritage centralisateur et autoritaire, si vous voulez, légué par des siècles de pratiques administratives de l'État royal, et pèse plus lourd que les quelques années de jacobinisme, où les quelques années de jacobinisme s'inscrivent dans la continuité de cet héritage centralisateur. Tocqueville avait bien montré, et puis plus récemment Arnaud Mayer ou d'autres historiens, la continuité qui a existé entre l'Ancien Régime et la Révolution pour un certain nombre de choses. Et donc, on ne devrait pas parler de jacobinisme, mais justement de référence à ce centralisme monarchique. et puis de référence au bonapartisme aussi, qui s'est inscrit dans cette même tradition. Bon. Mais en même temps, on devrait se rappeler que la Troisième République, pour l'essentiel, a instauré la démocratie. Et contre une opposition république-démocratie, je trouve qu'il est beaucoup plus exact historiquement de dire que la démocratie est advenue en France par la République, et plus précisément par la Troisième République, qui a fait voter des lois de liberté. Et souvent, les lois qu'on considère comme anticléricales, en fait, devraient être englobées par ces lois de liberté. Disons que c'est des lois qui ont imposé des libertés laïques à une religion qui n'en voulait pas. La loi sur le divorce, par exemple, a imposé une liberté laïque à une église catholique qui n'en voulait pas, mais en même temps, ce n'est pas une loi répressive, puisque personne n'est empêché personne n'est contraint de divorcer. Et tous ceux qui refusent le divorce, eh bien, ils peuvent vivre en refusant le divorce. Donc, je rappelle pour mémoire la loi sur la liberté de la presse, sur la liberté de réunion, la loi sur la liberté de réunion a permis aux cultes non reconnus d'accéder à la liberté, et de même pour les libres penseurs. La loi sur la liberté syndicale, y compris création de syndicats chrétiens, la loi sur le divorce, la loi sur le municipal, la loi sur les associations, etc. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que la religion a profité de ces nouvelles libertés. La loi sur la liberté de la presse catholique est beaucoup plus hostile, critique dans ses propos sous la Troisième République que sous le Second Empire. Parce que sous le Second Empire, il y avait une répression de la liberté de la presse. Pareil pour la liberté de réunion, pareil pour la liberté d'association, si on accepte le passage sur les congrégations, etc. Ça permet une vitalité de la religion et du catholicisme en particulier très forte. Autrement dit, plutôt qu'une réduction du pouvoir ou de l'influence de la religion, il y a un glissement de la religion d'un lien avec l'État qui commence à se défaire dès les années 1880, et qui a son aboutissement évidemment en 1905, vers la religion comme une instance importante de la société civile qui se constitue, qui se développe grâce à ces lois de liberté. Bon. Et donc, il faut voir avec la loi de 1905 la religion mise comme élément du tissu associatif de la société civile. En tout cas, c'est comme ça que le Conseil d'État voit les choses, en disant que la loi de 1905 se situe dans la filiation de John Locke plus que dans la filiation des Lumières françaises. Alors, il n'y a plus de salaire, c'est vrai, mais il y a une exception qui est mise dès l'article 2 lui-même, l'article 2 qui dit justement qu'il n'y aura plus de salaire du clergé, pour les aumôneries en milieu fermé, autrement dit, pour les cas où l'exigence de libre exercice des cultes amène à salarier des membres du clergé. Autrement dit, l'exigence de ce libre exercice des cultes est plus forte que l'exigence de non-subventionnement, l'exigence de non-salarié. Donc il y a, si vous voulez, là l'indication d'une souplesse si le financement sert au libre exercice des cultes, alors qu'on doit être strict et on doit être rigoureux si le financement officialiserait les religions. Or, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'en Alsace-Moselle, par exemple, tous les gens qui payent leurs impôts en France actuellement payent, alors pas beaucoup, mais sur le plan du symbolique, c'est quand même important, payent pour le clergé en Alsace-Moselle. Et alors, les Alsaciens-Mosellans disent, mais finalement, on fonctionne comme d'autres pays d'Europe. C'est pas vrai. Si vous voyez en Allemagne, le gouvernement agit comme agent pour recueillir l'impôt ecclésiastique, mais c'est un impôt ecclésiastique volontaire et libre. C'est pas tout le monde qui automatiquement, sans qu'il le sache, paye pour payer le clergé. C'est une piste. Alors après, les problèmes restent, mais c'est une piste pour pouvoir réaliser une liberté égale, dans la mesure où les anciens cultes reconnus bénéficient du fait que les édifices religieux, propriété publique, ont été mis à disposition par la loi de 1905, et édifices religieux qui étaient déjà propriété publique, parce que souvent il y a l'erreur de dire qu'ils seraient devenus propriété publique en 1905. C'est faux, ils étaient propriété publique depuis la Révolution française, qui s'en étaient servis pour mille usages, et ils étaient affectés au culte depuis le concordat et les articles organiques. Et là, ils restent propriété publique affectée au culte et affectée gratuitement au culte malgré la loi de séparation. Donc ça crée un réel problème dont alors les solutions ne sont pas minces, et les solutions doivent respecter le principe de séparation, et c'est ça évidemment qui est difficile. Mais il y a des possibilités, le Conseil d'État les a rappelées en 2011, pour pouvoir réaliser, disons, cette liberté la plus égale possible. Elle ne sera jamais totalement égale. La cérémonie religieuse catholique, par exemple, qui vient d'avoir lieu pour les morts en Afghanistan, rappelle que, malgré tout, il y a symboliquement une petite officialité encore du catholicisme en France. Mais la loi de séparation, c'est le moins d'officialité possible et le plus de liberté possible. Troisième élément, je vais vite pour rester dans les délais, la République est sociale et la laïcité donc doit être sociale aussi. Alors dès les années 1880, il y a un lien qui a été fait dans la morale laïque avec ce qu'on appelait la doctrine de la solidarité. Le fait que, justement, on devait relier la morale laïque et la question sociale, et que la morale laïque signifiait une plus grande justice au niveau social. Là encore, ça serait tout un thème de voir ce qu'on appelait cette doctrine de la solidarité. Alors, cette doctrine de la solidarité, au début du XXe siècle, elle se posait concrètement le problème des retraites ouvrières, de l'impôt sur le revenu, d'un certain nombre de points comme ça. Bon. Et puis arrive au pouvoir, donc en 1902, ce qu'on appelle le bloc des gauches, premier, disons, gouvernement nettement marqué à gauche qui va durer pendant près de 3 ans, ce qui est une durée importante pour la Troisième République. Et ce gouvernement, alors suite à l'affaire Dreyfus, évidemment, hein, il ne s'agit pas de faire un jugement moral, engage la lutte contre les congrégations, et cette lutte contre les congrégations l'occupe presque entièrement, et il ne réalise pas les réformes sociales pour lesquels il avait été notamment élu. Et donc Jean Jaurès, qui était très partisan des Mille Combes, devient critique et va devenir partisan d'Aristide Briand, de la laïcité d'Aristide Briand, c'est-à-dire le passage d'une laïcité de combat à une laïcité de pacification, justement pour pouvoir s'attaquer à la question sociale. Jaurès a compris que la laïcité de combat était un paravent qui permettait d'évacuer la question sociale et de ne pas traiter la question sociale. Et notamment, tout l'enjeu de l'article 4, cet article justement qui ne va plus obliger le catholicisme à être un catholicisme français spécifique par rapport à Rome, c'est un compromis évidemment très important, mais c'est quelque chose qui permet d'être dans cette logique de pacification et qui permet aussi de parier que la religion elle-même s'accommodera à la laïcité progressivement. Paris qui a été perdu dans le court terme et qui a été gagné dans le long terme avec Vatican II, mais vous voyez que ça a mis du temps avant que ce pari soit gagné. Et là aussi, on a un problème qui est le court-circuitage entre le temps médiatique, qui est un temps qui frise l'instantanéité, et le temps historique, qui au contraire est un temps où les décisions ont des conséquences à moyen et à long terme. Alors, dernier point que je voudrais dire pour cette laïcisation sociale, c'est que si on voit l'attitude des autorités après la loi de 1905 au niveau des immigrés, on s'aperçoit que la laïcité, et alors les immigrés à l'époque, c'est les Polonais, les Flamands, les Italiens, les Espagnols, etc., que cette laïcité est souvent plus douce pour eux que pour les gens qui sont depuis longtemps en France, qu'il y a un temps d'acclimatation qui leur est laissé, et que on n'entend jamais ce reproche de communautarisme, alors que les communautés immigrées restent pourtant très pas fermée, mais disons consistante sur elle-même, avec leur propre curé, avec leur propre cantique, leurs propres oriflammes, leurs propres manifestations, leurs propres regroupements, etc. On leur donne du temps pour peu à peu, disons, qu'il y ait une interaction entre ce qu'on pourrait appeler avec des tas de guillemets les anciens français et les nouveaux français, et cette application donc est douce. La commission Stasi a rappelé que, je la cite, la laïcité n'a de sens et de légitimité que si elle lutte pour la justice sociale, c'est quand même très fort, et elle faisait 10 propositions pour lutter contre les discriminations et pour arriver à percer ce qu'elle appelait elle-même le plafond de verre. On a parlé du plafond de verre à propos des femmes, et on pourrait parler du plafond de verre à propos des immigrés et des descendants d'immigrés. Et la commission Stasi insistait sur l'importance de la prochaine création de la HALD, Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui effectivement a été créée par Jacques Chirac, et on pourrait dire que la création de la HALD, par qu'elle équilibrait la loi de 2004 sur l'interdiction de signes ostensibles à l'école publique. En tout cas, c'est comme ça que la commission Stasi l'avait perçue. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que ça a été réalisé pendant quelques années, puisque la HALD a empêché toute contamination, je dirais, dans l'espace public de cette loi qui visait l'école publique et uniquement l'école publique et uniquement, d'ailleurs, les élèves dans l'école publique. Bon. Et puis, sous le sarkozysme, il y a eu normalisation, puis absorption de la HALD dans un défenseur des droits qui, dont je ne conteste pas la hauteur de vue, si vous voulez, mais qui doit s'occuper de plein de choses. Là, dernièrement, il s'occupait des PV, des 7 millions de PV qu'ils ont donnés chaque année, etc., ce qui est un problème évidemment tout à fait différent. Et la HALD a un peu disparu des radars, c'est le cas de le dire. Bon. Et on peut dire que la laïcité a de moins en moins été reliée à la lutte contre les discriminations. Au contraire, on peut se demander si la laïcité, la représentation dominante de la laïcité n'a pas été liée à une certaine attitude discriminatoire. Bon, je rappelle par exemple que à propos des mères de famille accompagnant les sorties scolaires, le tribunal administratif de Montreuil a justifié l'interdiction qu'elle porte un signe religieux en disant que ce n'était pas une atteinte excessive à la liberté de conscience. Bon. D'une part, alors c'est une formulation juridique pour ne pas être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, mais si la Cour européenne des droits de l'homme a cette formulation, c'est à propos des pays qui ont des religions d'État, hein, c'est pas à propos des pays laïcs, et la loi de 1905, pardon, ne dit pas que la République ne porte pas d'atteinte excessive à la liberté de conscience, elle dit que la République assure la liberté de conscience. Donc il y a quand même un retrait au niveau de l'idéal très fort, et je me demande quelle serait la réaction de la société française si à propos de telle ou telle mesure d'interdiction à l'égard du catholicisme, le tribunal disait « Ok, ça ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de conscience du catholicisme ». On peut penser là qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures suivant les religions. Bon, alors je conclue en disant trois choses. La première chose, c'est que cette nouvelle laïcité, si vous voulez, différente structurellement de la loi de 1905, a été un projet politique. Hein. Si vous lisez le rapport de François Baroin en 2003, c'est-à-dire 18 mois après le 11 septembre, qui s'appelle « Pour une nouvelle laïcité », vous avez de manière tout à fait structurée et consciente, si vous voulez, le projet d'une nouvelle laïcité différente de la laïcité de 1905, François Baroin ne pensait pas que cette laïcité irait jusqu'au Front National et amènerait le Front National à se réclamer de la laïcité et à se prétendre le champion de la laïcité. Lui, il voulait une nouvelle laïcité qui à la fois combat la gauche et il disait la référence qui lui paraissait excessive de la gauche aux droits de l'homme, hein, Et il y a cette phrase dans le rapport Barouin disant que la laïcité et les droits de l'homme, jusqu'à un certain point, ne sont pas compatibles, ce qui montre une conception répressive de la laïcité. Mais il pensait aussi que cette nouvelle laïcité combattrait le Front National. C'était un an après 2002 et la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Mais cette nouvelle laïcité, elle a dérivé et elle s'est encore plus droitisée que François Baroin le pensait, le souhaitait. La deuxième remarque, c'est que la loi de 1905 crée implicitement un schéma ternaire et non binaire. Il y a d'un côté la sphère politico-institutionnelle qui est la sphère de la puissance publique. Il y a la sphère privée de l'individu qui est la sphère de la citoyenneté. Et il y a la sphère sociale de la société civile qui est l'espace public. Et finalement, la religion s'épanouit dans cette troisième sphère, la sphère sociale de la société civile dans l'espace public. Bon. Et ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas des contraintes de la laïcité, qui sont le respect des autres, la tolérance civile, etc. Et la laïcité doit garantir contre des excès des cléricaux, si vous voulez, et l'espace privé, liberté de conscience de l'individu citoyen, et la puissance publique, la sphère politico-institutionnelle. Mais elle doit donner le maximum de liberté dans l'espace public à la religion. Bon. C'est ce qu'essaye de faire la loi de 1905, avec pas mal de réussite, puisque quand même elle est plus que centenaire. Enfin, dernier point, et je terminerai par là, la loi de 1905 n'a pas du tout compris la laïcité comme une exception française, au contraire. Au contraire, il y a tout un chapitre sur les laïcités à l'étranger dans le rapport de Briand, chapitre qui, quand l'Assemblée nationale a réédité le rapport d'Aristide Briand, elle a enlevé ce chapitre sur les laïcités étrangères, ce qui quand même montre une orientation idéologique très forte. Bon. À la fois, Briand insiste sur le fait qu'un certain nombre de pays, pour lui, sont déjà laïcs, et il en cite plusieurs. Et même, je le disais tout à l'heure à mon voisin, je trouve ça extrêmement intéressant, même il prend appui sur des pays dont on pourrait dire qu'ils ne sont pas laïcs, comme la Grande-Bretagne à son époque, en disant « Ok, il y a l'église anglicane, église établie en Angleterre, il y a l'église presbytérienne, église établie en Écosse, mais toutes les autres églises sont séparées de l'État ». Et l'église anglicane en Écosse, l'église presbytérienne en Angleterre et l'église catholique partout dans les quatre nations du Royaume-Uni. Et donc, il se servait paradoxalement de l'Angleterre pour dire, mais vous voyez bien qu'il y a une séparation des églises et de l'État qui fonctionne en Angleterre, même si elle n'est pas complète, et que, notamment puisqu'il s'adressait au catholicisme, les catholiques sont séparés de l'État en Angleterre sans être persécutés, en ayant une totale liberté, et même en progressant, et la suite d'ailleurs a montré qu'il y avait ce progrès de l'Église catholique qui a continué. Bon. Et donc, la vision de la laïcité de 1905, c'est de mettre la laïcité française dans le cadre de laïcité au pluriel, de divers pays, et pas du tout de faire une vision nationaliste et xénophobe d'une laïcité exception française. Je vous remercie.